Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Le cardinal Corre, président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, est de retour de Russie. Son voyage de 5 jours l'a mené à Saint-Pétersbourg et Moscou. Il a rencontré le patriarche Kirill. Il reviendra sur sa rencontre avec le chef de l'Église orthodoxe. Pour lutter contre la solitude à Noël, nous vous parlerons du blog Seigneur en forme qui met en relation des personnes seules et celles qui peuvent les accueillir chez elles. Et puis dans la deuxième partie de ce magazine, l'avortement va-t-il se banaliser en France? C'est la crainte qui grandit après un amendement adopté dans ce sens. Nous en parlerons avec le chargé de mission sur les questions éthique dans le diocèse de Rennes. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Le cardinal Kurt Corre, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, est rentré à Rome après 5 jours d'un voyage qu'il a mené à Saint-Pétersbourg puis Moscou, une visite auprès des communautés catholiques du pays, mais surtout un voyage écuménique auprès de l'Église orthodoxe. Point d'orgue de la visite du cardinal suisse en Russie, sa rencontre le 18 décembre avec Kirill, patriarche de Moscou et de toute la Russie, l'occasion d'aborder les relations bilatérales entre catholiques et orthodoxes, mais aussi de partager des préoccupations communes comme le conflit en Syrie ou les troubles en Ukraine. À son retour au Vatican, le cardinal Corre est revenu en détail sur les thèmes qui ont émaillé sa rencontre avec le patriarche orthodoxe, mais aussi sur la vision qu'a le patriarche Kirill du pape François.
C'était une longue rencontre, une longue audience. Nous avons traité beaucoup des thèmes, surtout les relations entre l'Église orthodoxe russe et l'Église catholique. On a traité les différences et les défis du dialogue théologique entre les églises orthodoxes et l'Église catholique. On a traité les défis de notre société, surtout la situation de la famille, mais aussi beaucoup des défis au niveau culturel. On a approfondi des possibilités pour la collaboration culturelle, éthique, entre l'Église orthodoxe russe et l'Église de Rome. On a parlé surtout aussi sur des problèmes politiques en Ukraine et en Syrie et au Moyen-Orient.
Quelle était la position justement du patriarche concernant par exemple les églises, ce que peuvent faire les églises pour les chrétiens au Moyen-Orient, surtout en Syrie?
Oui, de penser à ces situations, de les soutenir dans la prière et dans toutes les actions qu'on a faites. Je veux mentionner seulement la lettre que le pape François a écrite au président Poutine. L'organisation de l'invitation pour la soirée de la prière pour Syrie ici à Rome. Et d'autre part aussi l'engagement du patriarche et sa visite dans cette région pour soutenir les chrétiens. Alors le souci est le même. Et aussi l'engagement me semble très commun. Et d'autre part, le patriarche a aussi parlé de la situation des églises en Ukraine, les tensions, les problèmes qui existent entre les églises, l'Église orthodoxe et l'Église grecque catholique. Et ici, il me semble très important que tout le monde peut voir que les deux côtés ont des blessures dans l'histoire, et c'est pourquoi il faut avoir de patience et de respect contre les différentes blessures qui sont existantes et que bon, peut surmonter ces problèmes pour une meilleure collaboration et convivialité entre les églises.
Et quelle est en général la position ou la pensée du patriarche concernant le pape François? Est-ce qu'il a parlé de son style, de ses mots?
Oui, il a souvent mentionné la manière de comment le Saint-Père guide l'Église, qui prend en sérieux son pontificat. Il a mentionné sa personne, son intérêt, son proximité au peuple, et son engagement pour des valeurs chrétiennes dans les sociétés, pour sa doctrine sociale, parce que nous avons beaucoup de défis dans notre société qui sont communs. Et il a été très touché aussi de l'estimation du Saint-Père de la tradition synodale de l'Église orthodoxe, comme il a mentionné cela dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Et il a très estimé que le Saint-Père veut approfondir les synodes des évêques et que les synodes des évêques 2014 et 2015 traitent le thème de la famille.
Quels sont ceux que vous espérez pour le dialogue œcuménique pour l'année 2014?
Il y a surtout un acte de commémoration pour la relation œcuménique entre l'Église catholique et les Églises orthodoxes, parce qu'au commencement du janvier 2014, il y a 50 ans, que avait lieu la première rencontre avec le patriarche œcuménique Athénagoras de Constantinople et le pape Paul VI. Et cette rencontre en Jérusalem est c'était le commencement d'un dialogue de vérité et un dialogue d'amitié. Et j'espère que cet acte de commémoration dans l'année prochaine peut être une bonne opportunité pour approfondir ces relations et d'ensemble et d'aller d'ensemble dans un beau futur, parce que le but de tout ce dialogue doit être de retrouver l'unité dans l'Église et l'unité dans l'Eucharistie.
C'était le cardinal Cor au micro de notre confrère de la rédaction allemande, Mario Galgano. Le pape a reçu ce vendredi une délégation de jeunes membres de l'Action catholique italienne venus lui apporter leurs vœux pour Noël. « Je vous encourage, leur a-t-il dit, à toujours être dans l'Église des pierres vivantes unies à Jésus. » François, qui a félicité aussi les jeunes pour leurs efforts à découvrir le Christ. La naissance de Jésus n'est pas une fable, mais bien une histoire qui a eu lieu à Bethléem il y a 2000 ans, a aussi expliqué le pape, revenant sur la fête de la présence de Dieu au milieu de nous. Dans le visage du petit Jésus, nous contemplons celui de Dieu, a-t-il poursuivi dans son explication de la fête de la Nativité, soulignant que nous fêtons la tendresse et l'amour infini dont Dieu enveloppe chacun de nous. Le pape qui a enfin invité les jeunes de l'Action catholique à partager la joie de cette amitié du Christ envers chacun. Une joie à répandre à la maison, à l'école, en paroisse ou auprès de ses amis. Cette joie, a conclu le pape, permet de se comporter en vrai chrétien, prêt à donner la main à celui qui en a besoin, sans juger les autres, sans dire du mal. Et le pape qui recevait également ce vendredi les fonctionnaires du protocole diplomatique de la République italienne, ainsi que ceux de l'ambassade italienne près le Saint-Siège, un message sur le rôle culturel que peut jouer l'Italie dans la culture de la rencontre. Xavier Sartre.
Soyez toujours au service de la culture de la rencontre. Voilà l'exhortation que le pape François a adressée aux diplomates italiens. Le pape a souligné que l'Italie avait une carte en plus à jouer, celle du patrimoine culturel. Il a également déclaré que même les personnes qui ne sont pas chrétiennes se sentent interpellées par le message que nous adresse Jésus à Noël. Pour votre service, vous êtes, a-t-il dit, dans la condition de favoriser la culture de la rencontre. Le pape a aussi mis l'accent sur l'importance de faire croître des relations positives, basées sur la connaissance réciproque, sur le respect, sur la recherche commune de chemins de développement et de paix. L'Italie a toujours été dans le monde synonyme de culture, d'art, de civilisation, a souligné le pape. Et vous contribuez à rendre possible la culture de la rencontre, et qu'un tel patrimoine existe au profit du bien commun, de ce que Paul VI appelait la civilisation de l'amour. Noël, a poursuivi François, est la fête de la rencontre entre Dieu et l'homme. Nous est offert un enfant qui, par sa personne, réalise pleinement cette rencontre. Même ceux qui ne sont pas chrétiens se sentent interpellés par le message que Jésus nous offre à Noël. Je vous souhaite, a-t-il conclu, de vivre intensément ce mystère d'amour et qu'il anime profondément votre mission.
Le mystère de notre rencontre avec Dieu se comprend par un silence qui ne cherche pas de publicité. Seul le silence préserve le mystère du chemin que l'homme entreprend avec Dieu. C'est en substance ce qu'a affirmé le pape durant la messe ce vendredi matin à la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican. Le Seigneur, a-t-il ajouté, nous donne la grâce d'aimer le silence qui a besoin d'être gardé loin de toute publicité. Dans l'histoire du salut, ce n'est pas la clameur et la théâtralité, mais l'ombre et le silence qui sont les lieux où Dieu a choisi de se manifester à l'homme, a souligné le pape dans son homélie. Une homélie qu'il a centrée sur l'Annonciation. Marie, a-t-il dit, est une icône parfaite du silence. Une belle homélie à retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Pour de nombreuses personnes, la fête de Noël est un jour de fête où l'on partage en famille un repas, mais pour d'autres, la fin de l'année est une période beaucoup plus dure, voire douloureuse. Chaque année, c'est le même constat, de très nombreuses personnes fêtent Noël seules et la plupart sont des personnes âgées. Alors pour éviter l'isolement et la déprime, des initiatives ont vu le jour, comme celle du blog Seniors en Forme, un Noël de partage sur Internet, un Noël de partage 2.0. Le principe est très simple, mettre en relation des personnes seules et des personnes qui peuvent les accueillir chez elles. Une solidarité plus que nécessaire, comme nous l'explique Damien Moulard. Il est le rédacteur en chef du blog Seniors en Forme.
Il faut savoir que 24% des plus de 75 ans se retrouvent seuls et abandonnés à Noël. Donc malheureusement, ce chiffre est en augmentation de 8% chaque année. Cela représente 1,5 million de personnes. Âgés qui sont seuls le 25 décembre. C'est pour ça que nous avons lancé l'opération l'année dernière, un Noël de partage, un Noël 2.0. Et nous voulons faire de notre site un lieu d'échange et de rencontre pour éviter l'isolement et la déprime le 24 et le 25 décembre.
Est-ce que vous avez eu des témoignages directement de personnes qui vous ont exprimé cette souffrance pendant les fêtes ?
Il y a beaucoup de personnes qui se sont proposées d'accueillir une personne âgée à Noël. Et malheureusement, peu de personnes seules se sont manifestées. Peut-être la timidité, peut-être la peur, je ne sais pas, mais c'était surtout en sens unique. C'est pour ça que nous essayons cette année de remobiliser les gens et de leur dire « N'ayez pas peur, inscrivez-vous sur le site. Si vous êtes seul, nous essaierons de vous mettre en relation avec une personne, une famille qui pourra vous accueillir. »
Mais est-ce qu'après, vous pensez que les personnes font la démarche, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur Internet et se dire « Je vais arriver à trouver quelqu'un qui va m'accueillir pour Noël ?»
C'est vrai qu'il faut que les gens se connectent sur Internet, disent « Je suis seul », etc., etc. C'est peut-être pas une démarche qu'ils vont entreprendre. Mais peut-être certaines personnes vont, par hasard, tomber sur notre site. Et nous espérons fortement de mettre en relation les personnes seules et les personnes généreuses.
Et est-ce que vous avez eu un retour ou des retours de personnes, justement, qui auraient accueilli l'année dernière quelqu'un pour fêter avec elle Noël ?
Pour Noël, nous n'avons pas eu de retour, mais nous en avons eu pour le 1er janvier. Les personnes étaient ravies, étaient contentes. Et là, on se rend compte que Internet est un formidable vecteur et un formidable outil pour essayer de rassembler les personnes et de faire partager certains moments de convivialité. Donc c'est vrai que des personnes qui ne se connaissaient pas se sont rencontrées. Je me souviens surtout d'une famille de personnes de 40 ans qui avait accueilli une grand-mère qui ne voyait plus ses enfants ni ses petits-enfants depuis maintenant 8 ans.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. Et terminons ce magazine avec un sujet grave, celui de l'avortement en France. Mercredi, un amendement a été adopté lors de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale dans le cadre des débats qui concernent la loi sur l'égalité homme-femme. Les députés ont notamment supprimé la référence à la situation de détresse de la femme qui justifiait jusqu'alors le recours à l'interruption volontaire de grossesse. Le vote de la loi devrait avoir lieu au mois de janvier et beaucoup déjà s'inquiètent d'une banalisation de l'IVG, un acte qui pourtant n'est pas anodin. Ainsi, la disparition de la notion de détresse reviendrait à légitimer la logique de l'avortement eugénique. Pour réfléchir à cette question, nous donnons la parole à Jean Matos. Il est chargé de mission sur les questions éthiques dans le diocèse de Rennes, en Bretagne. Il est au micro de notre confrère de RCF, Étienne Pépin.
Un amendement extrêmement important a été donc adopté et qui consiste à dire que désormais, il n'est plus question de situation de détresse pour qu'une femme puisse avoir recours à l'avortement, à l'IVG. Donc je rappelle nos auditeurs que selon la loi Veil de 75, je la cite, la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Et puis il y a un tas de précisions qui sont données. Désormais, si donc l'amendement est retenu par l'Assemblée nationale au mois de janvier, eh bien il ne sera plus question d'état de détresse, mais tout simplement, je cite, eh bien la femme qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut donc demander son interruption. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune condition. Or là, cela paraît un petit détail juridique, et pourtant, c'est absolument fondamental dans le sens où c'est la condition qui avait été retenue en 1975, c'est l'article numéro 1 de la loi Veil, donc qui précise ce fait-là, et bien voilà, que la femme, après on peut être d'accord ou pas d'accord, la question n'est pas là. La question c'est qu'une condition était posée qui était la détresse. Et Dieu sait si bien des femmes se trouvent dans des situations de détresse parce qu'elles se sentent abandonnées, sous pression gens de la famille, parfois même du corps médical, etc. Donc c'était quelque chose de fondamental. Et aujourd'hui, si l'amendement est donc retenu, on a l'impression voilà, que ça devient un acte, j'allais dire, banal ou banalisé.
Mais est-ce que ce n'était pas déjà le cas, Jean-Mathos ? Est-ce que, même si on ne le dit pas officiellement, même si on ne le dit pas en France, n'importe quelle femme peut déjà avorter si elle le souhaite ?
Je n'irai pas jusque-là. Il est certain, et là, c'est bien que dans bien des situations, les différentes clauses de la loi ne sont pas toujours respectées. Je pense par exemple au délai de réflexion. Les choses ont tendance à aller de plus en plus vite. Et oui, vous avez raison, dans les faits, c'est ce qui se passe un nombre important de fois. Cela dit, la loi, elle en dit long. La loi a son importance. Et le fait même que la loi fasse donc sauter, elle supprime une clause absolument essentielle, en dit long sur le regard que nous avons donc sur l'avortement, sur l'IVG, et plus précisément sur les femmes qui sont confrontées à ce drame. Et je considère personnellement que c'est une forme d'insulte à ces femmes-là qui vivent des détresses profondes, que de pouvoir dire que finalement c'est un acte banalisé, qui aurait tendance à se banaliser, un acte médical comme un autre. Dès lors qu'il n'y a plus de conditions de détresse et qui peut être pratiqué à n'importe quel moment sans qu'il y ait aucune raison à justifier, qu'on le veuille ou pas, on banalise cet acte. Or, nous le savons, et les femmes qui nous écoutent, qui ont traversé cette épreuve-là, savent à quel point cela laisse des marques profondes dans le cœur, dans le psychisme, dans le corps d'une femme. Et de dire que c'est un acte comme un autre est un mensonge.
Alors Jean-Mathos, l'Église catholique semble toujours aller contre ce qui est présenté dans nos médias français comme une avancée sociale. L'avortement, ça a été présenté à l'époque, en tout cas, comme une avancée sociale. Aujourd'hui, clairement, on ne pourra pas faire machine arrière, on ne pourra pas interdire l'avortement en France. Si, vous y croyez ?
Avant de répondre à votre dernière question, je réponds à la première. Lorsque vous dites que ça a été considéré comme une avancée, oui et non, j'ai envie de dire, dans le sens où, dans l'esprit de Mme Veil, eh bien, il s'agissait en 1975 d'encadrer des situations dramatiques et qui devaient rester en quelque sorte exceptionnelles. Voilà, hélas, cela arrive, je résume très vite, cela arrive, c'est quelque chose qui arrive, donc autant l'encadrer de la façon la plus précise possible. Or, aujourd'hui, personne ne peut plus parler d'une exception, nous sommes dans une banalisation, dès lors qu'il y a 220 000 avortements par an. C'est un fait, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Dès lors qu'on a 220 000 avortements par an, il y a quelque chose qui s'est banalisé. Maintenant, savoir si on fait machine arrière ou pas, bon, au sens strictement politique du mot, je ne sais pas. En tout cas, il me semble que nous sommes confrontés à un défi en termes d'un tournant culturel, c'est-à-dire dans notre façon même d'envisager eh bien, la vie humaine, la souffrance de ces personnes qui sont donc, encore une fois, là, confrontées à des situations dramatiques et qui ne nous appartient en aucun cas de juger. Eh bien, de faire en sorte que ces personnes-là, comme toute personne vulnérable d'ailleurs, se sentent accompagnées, entourée, de telle sorte qu'elle ait un vrai choix. Parce que c'est ça le drame de l'avortement, c'est que bien souvent les femmes y ont recours, ayant l'impression qu'elles n'ont pas d'autre choix, alors qu'en réalité il y a, ou il peut y avoir, d'autres choix concrètement de garder son enfant dès lors que la personne le décide. Donc voilà, c'est ce que moi j'appelle un tournant culturel et très concret, et c'est à cela que nous sommes invités. C'est-à-dire, comment accueillons-nous aujourd'hui en France ces détresses et concrètement cette vie qui se manifeste? Eh bien, voilà, dans chacun de ces enfants qui nous sont donnés à accueillir, et je trouve providentiel de pouvoir parler de cela à quelques jours de Noël, où cet enfant-là, que l'on pourrait dire, tiens, mais quelle sera sa vie? Quand on voit les circonstances, la naissance de Jésus lui-même, il y a quelque chose de très étonnant. C'était quand même pas très confortable. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. Aujourd'hui, bon, on regarde le petit Jésus dans la crèche, c'est bien gentil. Mais quand on se met en situation, ce n'était pas simple. Marie aussi était en détresse.
C'était Jean-Mathos, chargé des questions éthiques dans le diocèse de Rennes. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.